When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
On est avec Baptiste Le Caplain. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait tellement longtemps que t'as pas vu sur Mademoiselle.
C'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait. Mais moi, je vois tellement de vidéos passer de Mademoiselle, j'ai l'impression d'être un peu dessus, tu vois.
C'est vrai.
Ouais, ouais.
Tu vois pas, c'est quoi, par exemple?
Bah, j'ai vu plein de trucs. T'as filmé les copains.
C'est vrai.
Ben Mazué.
J'ai découvert par cette interview de façon complètement impromptue que t'étais copain avec Ben Mazué. En fait, je savais pas.
Non, mais Ben Mazué. Tu dis Ben Mazué, toi?
Non, Ben Mazué.
Ben Mazué. Et en fait, Ben, on s'est rencontré à l'époque de MySpace.
Non.
Et j'écoutais son MySpace en boucle. Il y avait une chanson notamment qui s'appelait Papa. Et à un moment donné, j'ai dit, vas-y, je lui envoie un message. Et j'ai dit, mec, bravo, ta musique, elle est incroyable. Oh, bah, merci, c'est gentil. Toi, t'es humoriste. J'ai dit, ouais, bah, viens au spectacle. Et il est venu avec sa meuf. Et on a bouffé après avec nos meufs. Et depuis, on est potes. Et on a des enfants. Et voilà.
Ouais,
c'est un mec génial, je l'aime d'amour et il va faire les premières parties au Bataclan.
C'est vrai?
Ah, il fait les trois premières parties. Moi, je voudrais qu'il soit à toutes les premières parties du monde. Dès que je fais des belles salles en tournée, je veux qu'il vienne et il me dit ah non, je peux pas parce qu'il est beaucoup pris maintenant. Ben, je veux qu'il soit là tout le temps. Donc, il fait les trois premiers soirs au Bataclan.
Tu es en train de boucler là cette longue période de ta carrière là. Tu joues Origine depuis. Trois ans,
ça a démarré fin février 2015.
Ah oui, d'accord, donc ça fait. Ok.
Ouais.
Ça va faire 3 ans, quoi.
3 ans, ouais. 3 ans.
T'as fait de la tournée, machin. Et là, tu sors un DVD.
Ouais.
Fin novembre, le 21 novembre.
Ouais.
C'est ça.
C'est ça.
Et tu termines par 5 dernières dates.
Ouais.
Au Bataclan.
Ouais.
Mi-décembre.
C'est ça.
Et après, hop, c'est terminé, quoi.
Et après, club de fin terminé. Moi, je fais pas une Aznavour, hein. Je vais pas remettre un tour de bye bye. Non, parce qu'il faut le terminer ce spectacle. Et je t'avoue que c'était quand même un challenge après les 5 Olympias. Je t'avoue que c'est quand même un délire de repartir derrière, parce que là, l'Olympia était tellement haut. Je pensais pas atteindre. J'ai atteint un sommet de folie, quoi. Je te jure, c'était en termes d'adrénaline. J'ai tellement aimé l'Olympia que je repasse pas devant en scout. Parce que j'aime pas voir les lettres des autres artistes, ça me fait. Je suis jaloux. Mais je te jure, hein, je vois Mathieu Chédid, culé. Et donc, je te jure, c'est pas contre lui. Hein, mais je suis vraiment jaloux de cette salle. Et très envieux des gens qui y retournent. Ça m'a tellement marqué que voilà. Mais il y avait des villes en France où j'avais pas encore été. Il y a des villes où je retourne, tu vois, il y a Lyon, Marseille, j'y retourne, Lille, je vais y retourner. Et je ne pouvais pas terminer le spectacle sans rejouer à Paris et je ne pouvais pas. Le Bataclan, c'était obligé, quoi. Parce que Thierry Suc, mon producteur, qui est le meilleur producteur de la Terre, qui a lancé Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, voilà. Tu as les dîners de fin d'année d'équipe, hein, c'est pas mal. Hein. Je peux te dire, j'en bouffe du selfie. Hein. Florence Foresti, Étienne Dao, enfin tu vois, le mec est quand même. Et c'est un monsieur incroyable. Et il m'a dit, bon, bah, pour terminer, après 5 Olympia, il faut faire un Zénith ou un Palais des Sports. Et tu vois, j'ai dit, oui. Il me dit, non, mais je sais ce que tu vas me dire, tu veux retourner au Bataclan et tout. Et il m'a passé le téléphone. Et j'avais le directeur de la salle au bout du fil. Et il me dit, ouais, t'aurais envie de revenir et tout. Et j'ai dit, bah ouais, moi j'ai super envie de venir. J'ai joué 30 fois, mes parents ils avaient un souvenir incroyable de cette salle et tout. Et il me dit, ah ouais, bah moi, si tu veux venir, t'es le bienvenu. J'ai dit, non, mais je vais venir. Il me dit, oui, mais tu sais, enfin. Et je chantais, il était vraiment pas bien ce qu'il me disait. Il y a plein d'artistes qui m'ont dit qu'ils allaient revenir. Et au moment de signer les contrats et tout, j'ai dit, ah non, mais moi, t'as ma parole, je viens. Et Thierry, après le téléphone, il m'a dit, tu m'en bookes 5. comme un cours de tennis, quoi. Tu m'en bookes 5 et puis c'est parti. Et donc là, j'ai Thierry et Suc que j'adorais. Là, je l'ai aimé d'amour parce que terminer au Bataclan, c'était parfait, quoi.
T'as une histoire folle d'ailleurs parce que tu jouais le soir du 13 novembre.
Ouais. J'étais au petit Montparnasse. Mais où ça s'est passé à République, j'y ai joué longtemps au Théâtre du Temple. J'ai joué un an et demi, tu vois. Enfin, c'est l'Apollo Théâtre maintenant. Non, j'avais des copains qui étaient là-bas. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être en plus au petit Montparnasse, rive gauche. C'est vrai que nous, on a été vachement moins concernés. Parce que tout s'est passé dans le nord de Paris, en fait, hein, mine de rien. Et je l'ai vécu sur scène, ouais. C'était la fin du spectacle et comme je filme tous les soirs, tu sais, avec notre petite caméra qu'on a en commun, je filme tous les soirs, donc j'ai ces deux spectateurs qui s'en vont et comment j'ai géré ce truc, et je l'ai mis dans le bonus du coup parce que pareil, je pouvais pas ne pas évoquer ce soir-là parce que c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et c'est dans les bonus, ouais. Et ouais, c'était un soir surréaliste. Mais c'est là que tu vois que Paris est une ville vraiment extraordinaire. Moi, j'adore Paris pour ça. C'est que ça s'est passé le vendredi soir. Le lendemain, personne n'a joué, quasiment, je crois. Enfin, personne n'a joué à Paris, je crois. J'ai rejoué le mardi. Et en décembre, on a fait des meilleures recettes qu'en octobre et novembre. Alors, c'est pas la branlette commerciale en me disant, tu vois, j'arrive quand même, je vais au-delà du terrorisme. C'est pas ça. C'est que vraiment, moi, ça m'a mis un coup de boost, parce que je me suis dit, les gens, ils ont besoin de ça, quoi. Et je t'avoue aussi que la chance que j'ai, c'est d'avoir été dans un quartier qui a été moins touché, parce que je pense que les gens, même un Chris Rock ou un Louis C.K., enfin Louis C.K., c'est vrai maintenant, mais même dans le 11e, c'était trop présent, quoi. Mais les gens, moi, j'ai des gens qui venaient de loin, de Montpellier, ils venaient me voir et me dire, ouais, c'est cool, merci de continuer à jouer. Moi, ça m'a hyper touché, quoi. Et ça a fait aussi que tout le mois de décembre, je me disais, mais je ne peux pas ne pas retourner au Bataclan quand je vois les gens, comment ils sont aussi impliqués, quoi. Donc, ouais, c'était un soir très bizarre.
Reparlons de ton sujet peut-être un peu plus joyeux,
ouais.
De ton enfance. Je ne sais pas si c'est joyeux, en fait.
Si.
À quoi il ressemblait le petit Baptiste
Le petit Baptiste, enfant.
7 ans.
Il était comme ça. Voilà, c'est ça. Cut, one man show. Bonsoir, là. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très timide parce que j'étais, toi, là, je suis rasé pour un tournage. Je me suis rasé. T'as vu, j'ai très très fin.
Tu fais très jeune.
Je suis tout palo. Mmh. Et donc, quand tu rougis, tout le monde voit. Et tout le monde dit, pourquoi tu rougis? Donc tu rougeais encore plus et c'était tétanisant, quoi. Donc j'étais très très renfermé à l'école. Je jouais, j'avais des copains et tout, hein. Mais j'étais à l'adolescence, je me retrouvais souvent seul. Je me retrouvais souvent à marcher. Tu vois quand au collège t'as plus besoin d'aller en permanence. Tu sais, enfin les permanences des fois tu dis non, mais c'est plus obligatoire à un moment donné. Non, je crois que c'est au lycée. Je me baladais, je marchais, puis je parlais tout seul.
Tu parlais tout seul à vous.
Je faisais des interviews, je faisais non, voilà, non, mais tu vois, à un moment donné. Et donc, je me faisais des persos tout seul. Non, mais c'est horrible, non, mais c'est le mec qui était seul. Bah, non, mais tu comprends aussi pourquoi j'ai fait l'amour à 23 ans. Le mec qui se parle tout seul, il va pas attirer les meufs. Mais non, mais je me parlais vraiment tout seul. Je me faisais des délires, j'étais là. Alors, j'étais pas à rigoler tout seul, hein. Mais j'aimais bien aussi avoir ces moments solo. Et je cherchais pas à être populaire ou quoi. Donc, j'ai accumulé vachement de trucs en moi, j'ai vachement observé, mais j'aimais bien faire rigoler. Voilà, il y avait des gens avec qui je m'entendais très bien, j'aimais les faire marrer, mais je sentais que je me cherchais un petit peu, quoi. J'étais en edge, tu vois.
Mais donc comment tu fais pour faire le gars qui part de comme ça, qui se parle tout seul dans la cour de récré, à monter sur scène? C'est quoi le moteur? C'est quand même violent de monter. Enfin, je pense que c'est compliqué de se rendre compte à quel point c'est violent de monter sur scène.
Ouais.
T'es tout seul face. Quand t'as démarré, t'avais quoi?
J'avais 14 personnes, voilà. Hein, dans une salle.
Et
de
c'est quand même beaucoup, 1 contre 14.
Non, ouais. Tu vois. 1 contre 14, c'est beaucoup, ouais. Bah, qu'est-ce qui m'a fait monter sur scène? Peut-être les dettes de jeu. Tu vois, Vegas m'a coulé. Non, même pas. Même pas. C'est que, je te jure, j'ai, en fait, c'est. Je te dis, j'aimais bien faire marrer mes potes. hors contexte, pas en classe, pas dire, regardez ce que je vais faire à la prof de sciences nat, eh voilà, la grenouille elle est vivante. Enfin, tu vois, faire, je faisais jamais ça, tu vois. C'est pas possible parce que je voulais pas que mes parents aient des mauvais échos de moi ou quoi que ce soit. Mais j'aimais foncièrement faire marrer parce que je regardais plein d'humoristes et c'est quand j'ai été animateur, tu vois, j'ai passé mon BAFA, je faisais mes premiers emplois d'animateur et c'est mes potes qui m'ont dit, mais fais le sketch de Dubosc, là, de Sandy, là, t'aimes bien. Et c'est vrai que quand je faisais des sketchs, j'adorais parce que je sentais que…
Le meilleur sketch du Dubosc.
Ouais, ouais, qui est incroyable, son premier spectacle, il est incroyable. Le premier spectacle du Dubosc, il est incroyable parce qu'il pue le café-théâtre. Il pue le mec qui a usé les planches à mort, romantique, c'est génial, c'est carré et tout. Mais le premier spectacle, ça sent la démerde, quoi. Et il est incroyable. Je vous ai pas raconté. Génial. Bon, parenthèse refermée. Mais parce que c'était un truc de contexte, tout simplement. Parce que j'avais foncièrement envie d'être aimé par les gens et j'adorais ça. Mais tu sais, quand t'es. C'est comme quand les mecs disent. Tu sais, dans les films, il me dit, mais papa, comment t'as rencontré maman? Bah, je l'ai vue, elle était belle. Et j'ai été la voir, je lui ai dit, madame, est-ce que vous accepteriez de vous engager dans l'armée de terre avec moi? Et on est parti au Vietnam, et voilà, et on t'a conçu là-bas. C'est le pitch de Rambo 6 que je te fais.
Tu es au courant?
Ouais, ouais, parce que je fais une figure. Non, mais tu vois, des fois, t'es porté par un truc, tu sais pas pourquoi t'y vas. Et moi, j'étais trop attiré par ça, quoi. J'étais trop attiré par ça. Et ça fait du bien, putain. Mais le contexte est différent, je te jure, les gens ils se rendent pas compte à quel point, quand un spectacle démarre, t'es derrière le rideau, t'attends, la musique est part, donc t'y vas. Et quand t'entends les gens faire ouais, 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 je te jure, ils font 50% du taf. Hein. Je te promets. Hein. On est avec mon metteur en scène à Slam, et on se regarde, on fait bon, bah ce soir c'est cool. Voilà, tu le sais. Tu dis ce soir c'est cool. Et quand t'arrives et que les gens sont ouais, ils sont contents de te voir, mais mec, c'est les meilleurs moments du monde. Après, bon, après, t'es avec Christine Angot. Oui, bon, écoutez, j'ai pas aimé.
j'ai même pas vu t'es passé chez.
Non. C'est purement gratos. Purement gratos. Mais c'est des moments incroyables. Quand les gens t'accueillent, c'est trop bien, quoi.
Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était, je pense, en 2008 ou en 2009.
Ouais.
Où Bérangère Krief, que je venais de découvrir. Donc, elle joue au bout.
Ouais.
Comme toi. Et en fait, elle me disait, il y a ce mec, t'as fait l'école du One
Man Show? Non, j'ai pas fait l'école du One Man Show.
C'est quoi alors cette histoire? J'ai pas compris.
Alors en fait,
il y avait cette école.
Ouais, il y a une école, mais le gars qui tenait l'école du rire, l'école du rire, hein, c'est vraiment, on va t'apprendre.
L'école du rire.
On va t'apprendre l'école du One Man Show.
One Man Show.
On va t'apprendre à être drôle. Moi, j'ai pas participé à l'école. Je jouais dans le théâtre où il y avait les cours. Mais je pense que le monsieur a dû faire ouais, un mec. Oui. Gaspard Proust, Baptiste, Thomas Gijol, ils étaient là. Ouais, hein, c'est gratos. Et les droits SACD ? Oui, c'est gratos. Parenthèse refermée. Mais non, en fait, l'histoire, c'est que Bérangère, en fait, c'était ma régisseuse, c'était ma caissière. Tu vois, c'est elle qui a accueilli la première fois qu'on s'est rencontrés avec Kian. Kian, il est venu retirer sa place à la caisse. Il a rencontré Bérangère pour la première fois. Et elle l'a placé. Elle dit voilà, mettez-vous là. Et Kian s'est assis dans la salle. Je ne savais même pas qu'il était là ce soir-là. Il m'a attendu à la sortie. Salut, je m'appelle Kian Kojandi. Je suis humoriste aussi. J'aime bien ce que tu as fait. Viens à la maison, on va manger des pâtes et tout. Et Bérangère, elle était là. Et elle faisait les régies. Elle était tellement mignonne. Parce que putain, une petite blondinette mignonne comme tout. Hyper avenante, hyper souriante. C'était un ancien pipe show.
Donc, c'est tu sais,
les anciens pipe show, quand ils ferment, ils n'envoient pas une newsletter en disant salut les gars, bon bah quelle aventure extraordinaire, hein, hein, les premiers God Miché en fer forgé aujourd'hui, hein, c'était quand même, on a évolué, on a eu des belles choses. Donc c'était pour dire que maintenant l'établissement ferme, c'est un café-théâtre. Et les mecs n'étaient pas au courant, hein, donc ils se pointaient, ils pensaient que c'était encore ça. Bérangère était là, il voyait une petite meuf, et bonjour. Elle dit bonjour monsieur, oui, je voudrais rentrer. Pour me branler. Non, mais c'est pas du tout. C'est des spectacles. Ah, c'est des spectacles de cul. Non, c'est un mec qui fait des blagues. Il fait des blagues de cul. Non. Il est sur scène, il est à poil. Non, je te jure, tous les soirs, il y avait ça. Elle virait 3-4 gars un peu dégueu. Et elle a subi ça pendant un an. Et quand je suis parti du bout, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, ouais, je vais écrire mon one aussi. Et on s'est quitté, entre guillemets, comme ça. Mais on se croisait tout le temps. Mais l'école.
Elle m'avait dit, Baptiste, le mec, il arrive, il a retourné la salle, machin. Donc, peut-être, effectivement, vous étiez sans doute 14, mais 14 à être retourné, quoi, tu vois.
Ben, le premier spectacle, je faisais une entrée participative. Tu sais, je faisais les jambes siffler, après, ils m'ovationnaient. C'est parce que j'avais peur de l'accueil, donc j'avais combattu le diable par le mal, quoi, tu vois. Je me suis dit, vas-y, quoi, sifflez-moi, insultez-moi, et puis après, waouh. Ouais, c'était une entrée. Une entrée un peu maso.
Après le bout, tu quittes le bout, donc pendant. Ouais. Tu as joué pendant quoi?
Un an et un mois.
Tu joues où après?
C'est Théâtre du Temple.
Au Théâtre du Temple directement?
Pendant un an et demi. Et là, c'est Christophe Meillant de Oulala Productions, ouais, qui me signe mon premier contrat d'artiste. On était en autoprod avec Aslem Smida, mon metteur en scène, et puis on attendait, on avait refusé quelques propositions, d'autres prods. Il y avait juste pour rire notamment à l'époque aussi, tu vois, qui suivait. Et puis nous, on disait non, on faisait notre tambouille à nous, tu vois, on attendait de voir comment ça se passait. Puis Christophe, c'était le premier à être venu nous voir, je me souviens, et on était revenu vers lui en disant bon voilà, non, on veut bien travailler avec toi. Et ça s'était super bien passé. On a fait un an et demi au Temple, et pendant un an et demi, j'ai joué quasiment 5 soirs par semaine tout le temps, quoi. Donc là, le spectacle, il a, mais enfin, je l'ai modifié, mais. D'une façon vertigineuse. Et ensuite, je suis arrivé au Trévise. Et après, il y a eu la tournée. Et puis après, on a annoncé le... À la fin du Trévise, j'ai rencontré mon agent, Grégory Vane, qui m'a mis sur New York.
Ouais.
Et en revenant de New York... avant de partir à New York, je tourne Bref. Quand je suis à New York, Bref explose. Ouais. Donc, je vois Kian passer les 1 million de fans en replay dans mon appart à New York au World Journal. Le mec qui avait 3 mois avant, il me disait « Bah, tu peux me payer mon burger, j'ai pas de thunes. » Je dis « Ouais, t'inquiète, je peux dormir chez toi parce que... » Avec mon coloc, ces choses, que niveau loyer, là, je suis en retard. Je dis, bah ouais, viens. Et 3 mois après, le mec, il est au journal, il passe les 1 million de fans. Tu te dis, bon, ouais, tu vois, la vie, elle est cool aussi, elle peut être sympa, la vie. Donc, ouais, c'était fou, ça. Et je suis revenu de New York avec Bref, machin. Et on avait booké les Bataclan. On en a fait 9, retourné. On a refait 20 Bataclan. Et le DVD, voilà. Et Libre à Soupi.
Et Libre à Soupi. Tu vas tellement vite.
Je vais tellement vite, je suis désolé. Hein. Tu me dis ma vie, mon œuvre.
En fait, ton...
La bascule scène-cinéma, moi, je l'aime bien. Et je trouve que c'est même très complémentaire. Parce que je te dis, ça me permet de me reposer sur la direction d'un mec ou d'une nana. Et quand tu reviens sur scène après, ta liberté, tu la savoures encore plus, quoi.
Et pour le coup, tu la prends, toi, ta liberté sur scène.
Oui, bah oui, oui, bah t'es dans un espace hein, que ça prend. Hein. Ah oui, mais je suis un chien fou. Hein. C'est vraiment ça. Je suis un chien en laisse sur les quais au cinéma. Voilà, tiens, fais ça, viens là, hop, on avance. Et puis après, je suis au bois de Vincennes sur scène. Et là, j'y vais. Je cours vers les naturistes. Et puis c'est cool, quoi.
Je cours.
Mais il y a l'espace naturiste maintenant au bois de Vincennes.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Bah, qui était là depuis toujours. Hein. Sauf que là, on leur a dit, bon, là, c'est autorisé.
Peu de gens parlent de ta carrière de basketteur, mon pote.
Oh putain. Non, ça, c'est vrai.
D'ailleurs, j'allais voir sur ta fiche Wikipédia avant, et il écrit « Alors, Baptiste Caplin est en National 3 comme meneur remplaçant, ref nécessaire. » Bon, bah voilà, c'est le moment ou jamais de…
De référencer.
De référencer.
Ouais, bah écoute, j'étais… non, j'étais un joueur correct, je m'entraînais beaucoup, beaucoup. J'ai fait
t'as joué à quelle heure? À quel âge t'as commencé?
À quel âge j'ai commencé? Mais j'ai commencé à…
6 ans.
À 7 ans, un truc comme ça, ouais. 7-8 ans, mais j'ai intégré sport-études, sport-études basket, j'ai été dans un collège à 40 bornes de chez moi exprès pour jouer dans l'équipe d'Avranches. Et non, mais surtout, je commençais à avoir un bon niveau parce que je m'entraînais avec les cadets, on s'entraînait 2 fois par semaine, et je restais après l'entraînement des cadets, je me réentraînais avec les seniors. Je faisais le match des cadets, je faisais le match des seniors sur le banc, et le dimanche je jouais avec la réserve. Donc mec, j'avais des semaines de Jean-Jean, hein. Plus les shoots chez moi dans mon garage, parce que là ça y allait, je faisais que ça. Donc j'adorais, mais après non, faut être honnête, j'allais pas révolutionner le basket. J'avais un niveau ouais, plus pré-national que National 3. Mais j'adorais, j'aimais pas l'ambiance dans l'équipe où j'étais. C'était une ambiance, enfin c'était c'est là que j'aimais mon côté dark qui revenait. J'aime pas l'injustice. Il y avait des mecs qui étaient un peu injustes, quoi. Tu vois, ils te prenaient un peu de haut. Enfin, ils m'appelaient américain parce que j'étais le seul à avoir eu mon bac mention anglais. Donc, il y avait un joueur américain dans l'équipe, donc je lui parlais en anglais. Et enfin, je faisais la traduction. Et donc le mec m'appelait l'américain. Bon, ce qui est c'est très logique. Mais j'ai eu des moments de. Tu sais, c'est là que j'ai, l'injustice, je déteste ça. Je déteste l'injustice et l'injustice dans le sport. Ça m'a un peu dégoûté de ça aussi. C'est pour ça que j'ai apprécié le one-man show. Parce que. Non, mais tu t'embrouilles avec l'entraîneur, il te le fait payer le week-end. Après, j'étais un petit con, des fois, je me laissais pas faire. Hein. Mais il y avait vraiment des teubés, quoi. Il n'y a pas que des teubés dans le foot. Hein.
Ah oui, ça.
Il y a vraiment des teubés
partout.
Non, non, mais bon, c'est marrant. Après, tu les recroises. Je peux venir te voir au Zénith ? Ouais, bien sûr. Tu vois. Et toi, derrière le poteau. Hein. Bon, je le fais pas, hein, mais. Non, non, mais. Salut, les gars.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
T'as décidé de guetter contre là ce matin.
Non, non, mais c'est toujours, tu vois, d'en reparler. Non, mais j'aimais pas l'injustice, j'aimais pas ça. Et dans une équipe, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Puis j'étais pas genre à fermer ma gueule. Donc c'est pour ça que tu vois, c'est très bizarre le côté un peu fou sur scène et les énervements et tout. C'est le truc qui était contenu. Des fois, je me retenais, mais des fois, je m'énervais. C'est pas parce que tu fais 2m05 que t'es emploi jeune à la ville où on est et que tu mets 12 points par match. Et que tu as une prime de victoire de 30 euros après une victoire, que tu vas mal me parler. Non, j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas les mecs qui me parlaient mal.
Je t'imagine tellement pas t'énerver sur.
Ah, si, non, j'étais une petite taille. Non, mais j'avais mes défauts aussi. Hein. Attention, mais je détestais l'injustice. Je détestais ça. Ça m'en fout.
Okay, ça devient d'où ?
Non, mais c'est pas juste. J'aime pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Non, mais parce que. J'étais pas le meilleur joueur et tout, mais je taffais comme un porc, quoi. J'étais vraiment le mec qui m'entraînait le plus et j'aimais pas. J'aimais pas les combines de merde. Comme pour moi, c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir des filles, mais tu vois, t'as le père d'un des joueurs et le coach. Non, mais le père d'un des joueurs et le coach, et il fait jouer un autre gars qui est moins fort que toi, mais il fait jouer son fils, que son fils donnait plus de balles au fils du coach. Tu vois, toi, t'es là, tu vois ça. Bon, au début, tu réalises pas. Mais après, avec le recul, tu captes, tu dis, bah oui, évidemment. Enfin, après, si je veux faire le suceur, je vais donner avec des balles à ce gars-là. Et voilà, puis ça parle, ça radote. Nanana. Enfin, tu vois, c'est les ambiances de club, des fois, qui peuvent être un peu malsaines, tu vois. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir que des filles, parce que je veux pas ces ambiances-là avec les mecs, parce que je pèterais un câble. Je dirais, non, mais tu te laisses pas faire.
Mais je pense que c'est un peu pareil, tu sais, dans tous les groupes, en fait, sociaux, que ce soit même avec des filles ou des garçons, quoi.
Ah ouais? Ouais, mais les filles au sport, elles sont.
Au sport, nous, on se foutait dessus, en fait, quand on avait des problèmes, on se parlait.
Ouais, mais là, tu vois, où j'étais un peu malin, c'est que les mecs avec qui je pouvais m'embrouiller, que je détestais vraiment, ils faisaient 2m05. Tu vois, donc, j'avais quand même pas leur entrée dans la gueule, mais. Non, non, mais après, tu vois, je suis pas rancunier ou quoi, je suis pas péteux. Si les mecs veulent venir me voir, je leur ai serré la main, ces gars-là. Mais bon, enfin, tu vois.
Ça a été un moteur pour toi, à un moment donné, ce.
Ça me motivait, je lâchais pas en fait, je me laissais pas faire. Donc c'est juste que dans l'adversité, je peux être méchant. Si un mec est vraiment injuste avec moi, c'est pour ça qu'il y a des gars que j'ai rencontrés dans ce métier, dont j'étais fan, qui m'ont fait un ou deux coups de pute, je peux te dire que c'est ancré à vie que ces gars-là, je leur ferai payer un jour. Mais pas méchamment, mais en tout cas, c'est réglé dans ma tête. Maintenant, quand un mec me fait un coup de pute injuste, c'est réglé, c'est terminé. Et ça vient du sport. Ah ok, tu veux, ok, je joue comme ça, ok, très bien. Vas-y, ça marche, très bien. Et quand je fais ça, ok, très bien. Quand il y a le sport comme ça, je suis bien sûr. Vas-y, vas-y.
Mais ce que je veux dire, c'est t'en as fait un moteur, toi, à un moment donné, pour avancer aussi à titre perso ou pas?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que ça te fait comprendre le travail, le sport. Enfin, tu vois, je m'entraînais tous les jours au basket. J'ai arrêté, j'ai direct enchaîné avec l'endurance où je cours tous les jours. Et ça a fait un moteur de rigueur, de t'as la discipline sportive et on a ce qu'on mérite. Si tu t'entraînes dur et que tu joues pas, bah, tu dois continuer à gagner ta place. Si tu écris dur tous les jours, au moins tu mériteras tes blagues. Mais c'est ce qui fait que toute cette histoire de plagiat dans l'humour, ça, moi, ça m'en fout parce qu'on le savait déjà. Ça m'en fout que des mecs arrivent encore à se défendre, ils se font prendre la main dans le sac. Je dis non, mais c'est bon, ça va, il n'y a que 4 blagues. Non, mais arrête de te rementir à toi-même, c'est pareil, il y a plus. Mais l'injustice là-dedans aussi me rend fou parce que je connais des mecs qui bossent et, comme des fous. Au moins, tu as ce que tu mérites. Si tu écris comme. T'écris. J'ai toujours fait ça, j'ai rempli des carnets de fous, je jouais tous les soirs. Mon spectacle pendant un an et demi, 5 soirs par semaine, il y en a plein qui pèteraient un plomb. Je ne sais même pas si je serais capable de le refaire maintenant avec la vie de famille, mais au moins, tu as le goût de l'effort et tu n'as rien sans rien. Je vais chercher chaque rire, chaque personne en envoyant un mail. Tu vois, quand je démarrais au bout, on disait bah, t'envoies un mail à tous les spectateurs. Ouais. J'ai dit non, je vais les envoyer à chacun. Kian, il me disait mais t'es fou, fais un mail groupé. Je dis non, j'ai dit moi, à chacun. Et là, je prends tel bout de spectacle et je bosse et tout. Machin. Donc ça m'a amené toute cette rigueur-là. Et ce moteur, oui, ça m'a servi. Ouais.
Et tu penses que tu n'arriverais plus aujourd'hui, tu dis, ou alors c'est parce que effectivement, ce spectacle, tu le joues depuis 2 ans, peut-être que tu retrouverais cette verve-là en faisant le prochain, par exemple.
Non, parce que tu vois, la preuve, c'est que quand j'ai démarré le deuxième, ma prod me disait, bah, je joue un mois dans une grosse salle ou 3 semaines, un mois dans une grosse salle. Je dis, non, je veux repartir en rodage tous les jours. J'ai fait 3 mois de rodage. J'ai fait 3 mois, petit on parlait 6 fois par semaine. Tu vois, ils m'ont dit, bah, je joue 5 fois ou 4 fois. J'ai dit, non, on peut doubler le samedi. J'ai dit, mais t'es fou. J'ai dit, non, mais j'ai besoin de me le mettre dans les pattes. Et je te dis ça, c'est juste rapport à la vie de famille. C'est juste que c'est très compliqué maintenant. Quand je pars en tournée, que je reviens, je suis fracassé. J'ai envie de, tu vois, je veux pas être dans le canapé avec Netflix, avec ma fille. Tu regardes quoi, ça, ouais. Non, j'ai envie de jouer avec elle. Tu vois, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai envie de faire des trucs, tu vois. C'est juste que c'est l'investissement qui est fatigant. Mais le troisième spectacle, je pense déjà à dans quel théâtre je pourrais jouer 5 soirs par semaine.
T'as déjà des trucs en tête ?
Pour le troisième ?
Ouais.
J'ai le titre.
T'as déjà écrit des trucs ?
J'ai l'affiche, j'ai la fin. Ouais, il y a des trucs.
j'ai la fin.
Non, mais c'est important. Moi, je suis comme Tarantino. Moi, il me faut les musiques, il me faut le début et la fin pour. Sinon, je peux pas avancer.
T'as déjà testé des trucs ?
Y a des trucs que j'ai pas mis dans le deuxième spectacle. Par exemple, tout ce qui est dans le DVD du premier et du deuxième spectacle, ce sera jamais réutilisé dans les spectacles d'après. En revanche, il y a, tu vois, tout le sketch que j'ai sur le téléchargement, sur Batman et Robin, Bambi, Daniel Auteuil, tout ça, je l'ai pas utilisé dans le deuxième. Donc, je vais le réutiliser dans le troisième. Mais je veux trouver un axe différent, comment le raconter bien. Et oui, j'ai des trucs, ouais, monsieur. J'ai des trucs, ouais. Après, est-ce que ça va être rigolo ou pas? Pour l'instant, je sais pas, mais il y a des trucs, ouais.
Tu disais que t'étais content d'avoir une fille?
Ouais.
D'avoir des filles, je sais pas si c'est.
Ouais, il y aura la deuxième.
Est-ce que c'est secret encore ?
Non, c'est pas secret, tu peux le dire. Non, mais ouais, normalement. Enfin, attends, j'ai 80. À l'écho, ils nous ont dit 80% de chance que ce soit une fille. Hein. C'est gouré une fois.
Ah.
Se trouve, genre un mec et.
Voilà. Bon, on effacera.
Non, c'est pas sympa, parce qu'il y a l'horreur, le pauvre. Non, mais oui, je suis trop content, bien sûr, d'avoir des filles. C'est. Salut les filles ! Et puis à partir de 15 ans, je vais en chier. Non, mais je pense que quand j'aurai 2 filles, tu sais quoi, quand elles auront l'âge de sortir les deux, je mets dans le hall de ma maison, je mettrai un sas. Tu sais, comme dans les laboratoires scientifiques, tu sais, dans les films futuristes, tu as des mecs qui mettent des combis et tu as de la fumée. Et je voudrais qu'elles passent dans ce sas quand elles rentreront de soirée avant de me faire un bisou. Je veux qu'elles soient totalement désinfectées. Je veux rien, je veux pas d'infos, rien. Ne me dites rien. Ouais, j'ai pas dormi, je veux pas savoir, ne me dis rien, tu vas faire souffrir papa. Oh putain.
Tu sais, cette relation-là, à ta fille?
Ouais, non mais c'est dur de... Non mais tu vois, c'est le... c'est vraiment, là, c'est une angoisse de fou, c'est que là, elle me fait des bisous. Elle me fait des petits bisous, ma fille, elle me fait papa, elle m'embrasse sur la bouche, elle me fait un smack. Ce qui dure un smack de 3-4 secondes, mais c'est un smack avec ta fille. Bon, quand elle aura 22 piges, on va plus faire ça, hein. Ça va être compliqué, hein.
Puis même avant, j'espère.
Ah, sorti, oui. Non, mais tu vois, c'est juste ça, de faire le deuil de ces trucs-là qui me font. Oh là là. Et du coup, tu vois, je vois ma meuf avec son père qui me dit, mais tu fais plus de câlins à ton père? Bah, enfin, t'es malade, enfin, je vais pas faire ça. Je lui dis, mais fais des câlins. Et du coup, moi, tu vois, je suis. Mais va lui faire un câlin. Mais, bah, va sur ses genoux et joue avec lui, quoi. Mais non, mais. Non, mais ça me manquait tellement. Je voudrais pas qu'elle grandisse.
Mais c'est trop bien.
Oui, c'est bien. Oui, mais oui, c'est bien. Évidemment que c'est bien. Mais
toi aussi, tu vas grandir en même temps. Tu
oui, je vais vieillir, je vais être vieux, mais Non, non, mais ça va être super. Mais il y a des trucs qui vont me manquer déjà énormément. Là, je la fais plus rôter, là, ça me manque. J'aimais bien la faire rôter. Non, mais c'est mignon de faire ça. Ah, c'est bien. Tu sais, quand t'es... Non, mais quand ça interagit, c'est plus intéressant quand même. Mais...
C'est quand même mieux d'avoir oui, une vraie oui, discussion que bien. C'est cool, je t'ai fait rôter.
Ouais, ouais, bien sûr, mais quand même, tu fais rôter quelqu'un, c'est quand même gratifiant, quoi.
Putain, j'avais jamais vu ça.
Bah non, mais personne voit ça. Fais rôter un pote, on fait plus rôter ses potes. Ça va, Étienne ? Ouais, t'es avec ma meuf. Eh, viens là, je vais te faire rôter. T'es pas mieux là ? Ouais, c'est pas fou. Merde.
C'est quoi tes projets après
Mes projets, donc il y a le DVD qui sort, la tournée, les dernières au Bataclan. Et ensuite, il y a un film qui sort le 10 janvier,
oui.
Qui s'appelle La monnaie de leur pièce. Ouais. Un film avec Miu Miu. Ouais. Miu Miu, c'est ma maman. Elle m'appelle et tout, je vois Miu Miu sur le téléphone, je suis trop content. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Ah, je l'aime d'amour. Mmh, je t'aime, ma Miu. Avec Margot Bansillon, Julia Piaton, Yannick Landrin, Alice Belaïdi notamment. C'est un film qui sort le 10 janvier, ça s'appelle La monnaie de leur pièce. C'est un film d'Anne Leni.
Vous jouez une histoire d'héritage, c'est ça?
Exactement, mmh. Exactement. Une histoire d'héritage qu'on pense obtenir, mais qu'on ne va pas obtenir parce qu'il y a une cousine qui vient. Il y a Anémone dedans. Elle a un petit rôle, mais elle est très très drôle. Donc c'est un film qui sort le 10 janvier. Et ensuite, ouais, il y a des projets de tournage, de comédie romantique, peut-être, okay. Peut-être avec Bérangère Krief.
Ah ouais, okay.
Ouais, j'espère, on croise les doigts.
Le duo de retour.
Le duo de retour, non, mais ça serait génial. Mais là, pareil, tu vois, pour la symbolique, ça serait trop bien, quoi. Enfin, tu vois, on a démarré ensemble, ça serait trop cool. Non, mais on a un super film dans les tuyaux, là. On attend juste le feu vert des distributeurs et on va y aller.
Cool.
Et puis je co-écris un film, oui, avec un monsieur qui s'appelle Olivier Van Neustadt, qui a notamment fait Dick Neck. Donc on écrit une comédie, ouais. Et ouais, j'écris avec le mec.
Parfait.
Le mec de Dick Neck.
C'est le moment de dire à toutes les mademoiselles si vous avez jamais vu Dick Neck, c'est vraiment.
Ah, faut regarder.
C'est le moment où j'aime.
C'est le film qui a lancé François
Damiens.
Est-ce
qu'on dit Dick Neck ou Dick Neck?
Dick Neck.
Je pense les Belges, ils disent comme
Dick Neck.
Dick Neck.
Mais il y a François Damiens.
Bien sûr.
Jérémy Régnier, Marion Cotillard.
Marion Cotillard dans ce film qui.
Mélanie
est...
Laurent. Florence Foresti.
Florence Foresti qui démarre tout juste.
Qui démarre, qui joue une flic lesbienne, elle est à crever de rire. Non, mais le film est incroyable, le film est complètement barré. C'est un bonheur ce film.
Donc tu écris.
C'est en écriture, ouais, c'est en écriture, une comédie bien con de gars. Mais voilà, c'est des petits projets dans les tuyaux. Je pense que l'année qui va arriver, l'année 2018, ça sera des tournages et de l'écriture. Et je démarrerai vraiment la finalisation du troisième spectacle début 2019, je crois. Donc peut-être, je sais pas, là comme ça, tu me lances un truc peut-être Avignon, été 2019, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr encore, faut que je vois. Faut que je vois ce que j'ai dans les Moleskines.
Tu te remets un peu en sevrage de.
Il faut, ouais. Scène, quoi. Il faut, parce que j'ai enchaîné le premier et le deuxième, il faut que je me repose un peu. Et puis j'ai. Non, c'est dur, j'aurais pas la force de repartir en rodage, en tournée et tout, là, tout de suite, là. C'est trop fatigant. Faut que ça me manque. Mais tu vois, rien que de t'en parler, de me dire j'arrête le deuxième, je vais, au bout de 3 mois, 4 mois sans spectacle, je vais être là, je suis en bas, mec. Qu'est-ce que je fous là? Je vais faire mes premières parties de gars, les scènes ouvertes.
Parce que je me dis à un moment donné, en termes d'endorphine, l'énergie que tu dépenses sur scène tous les jours, tu dois finir par être camé en fait à l'endorphine quoi. Si t'as pas ton heure et demie de jeu court dans tous les sens, tu transpires de façon folle. Tu t'en joues d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Tu transpires énormément, etc. Parce que tu te donnes. Totalement.
Il y a le sport qui m'aide, le footing m'aide.
En plus, hein.
Ouais. Non, mais je cours avant de jouer.
Mais tu vas pas pouvoir rester contenu comme ça pendant
non, mais ce qui me manque, c'est l'idée de trouver une idée, de la noter, de la jouer et que ça rigole. Ça, ou de trouver une impro, d'un truc marrant. Tu vois, l'autre fois, j'ai joué près de Saint-Etienne, au Puy-en-Velay. Et je sais plus, j'ai parlé d'un mec qui me dit. On parlait de. Il y a un mec qui était au balcon. Il me dit, la meilleure place, c'est l'œil du prince. Je dis, l'œil du prince, qu'est-ce que tu me parles de Chocobéenne? Elle est genre rigolée, vite fait. Et je dis, ouais! Et là, flash dans ma tête, mais j'ai vraiment fait, ouais! Vous vous souvenez des gars qui mangeaient les Chocobéennes? Ils prenaient les chocos, ils les dévissaient, ils les enlevaient et ils les mangeaient comme ça?
Bien sûr.
Et tu vois, et je suis mis à rire. Mais tu faisais ça?
Tu faisais pas ça, toi?
Mais si, je le faisais, mais quand je regardais les gars faire ça, je dis, waouh, putain, ils sont tellement différents et tout. Et c'est de la façon que t'as de te démarquer quand t'as 7 ans et demi, tu vois. Et les mecs, ils mangeaient les chocos comme ça. Et j'ai eu un énorme rire des gens qui disaient, mais t'es con, enfin, qui trouve ça, quoi. Et donc, tu vois, juste de te dire ça, je me dis putain, j'ai une nouvelle idée, qu'est-ce que j'en fais?
Oui, parce que là, faut dire que ça fait, pour les gens qui savent pas, c'est que t'improvises effectivement un peu dans le spectacle, mais c'est un spectacle que t'as rodé, re-rodé, etc.
Ouais, ouais.
Donc c'est un truc, t'as plus vraiment cet aspect découverte de...
Non, j'ai moins l'esprit découvert. Mais dès que j'ai des nouvelles blagues, je les teste et c'est cool, quoi. Tu vois, la dernière fois, je relisais Blanche-Neige à ma fille et elle me dit, lis-moi, c'est surtout La Belle au Bois Dormant que je me tape. La Belle au Bois Dormant avec des blagues. Donc, tu vois, j'ouvre le livre et je mets mon doigt sur les persos et je les fais parler. Je suis, alors, ça va, tu vas bien? Bah, ouais, ça va. Oh, le prince Philippe, il est un peu, pff, oh là, il est relou. Ah ouais, mais t'inquiète, on va le marier avec ma fille. Enfin, c'est un bébé. Non, mais t'inquiète, on va s'arranger. Et donc, tu vois, tout le bouquin, je fais passer des trucs comme ça. Et donc, ça fait marrer ma fille. Elle retient les blagues, elle les refait. Et non, mais c'est les incohérences scénaristiques de Walt Disney, quoi. J'en ai noté 2-3, quoi. À l'enterrement de. Enfin, quand Blanche-Neige, elle est morte, qu'elle a mangé la pomme, t'as tous les nains qui sont tristes. Incohérence scénaristique de fou, joyeux. Mais il doit pas être triste. Joyeux, il doit être joyeux, dire bah quand même le gars, il a une belle vie, non? Enfin bon, tu vois, faut. Tu vois, donc j'ai fait tous les nains. J'ai fait ça à ma fille, ça l'a fait marrer.
Tu sais que si tu rentres dans les contes de fées, de la façon dont. Les vrais contes de fées et Disney, la façon dont Disney les a traités, il y a des incohérences folles, quoi.
Bah bien sûr.
C'est hyper dark, normalement, les contes de
fées. Non, mais le Roi Lion, quand il y a le baptême de Simba, et là, mais il est là-bas, t'as tous les animaux qui font bravo. Il y a des zèbres et des antilopes. Mais qui va vous chasser, les gars? On croyait que c'est pas lui, là? Et en fait, j'ai tourné le truc au baptême de Simba. Ils disaient, bah, c'est génial, il y a un buffet et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est encerclé? Et les gens, ils disent, bah ouais, venez, demandez. Ça se transforme en vérine. Wolverine. Oh là là, oh. Non, surtout pas de jeu de mots. Plus jamais tu m'incites à faire un jeu de mots.
Tu veux pas te lancer sur YouTube? Tu sais, je pense à ça parce que je me dis que Verino, c'est aussi un de ses trucs, c'est qu'il écrit toutes les semaines. Alors,
ouais, c'est bien. Ouais,
il a trouvé un bon truc entre. Comment dire, la scène qu'il fait tous les jours et puis ce moment d'écriture, c'est pas un truc que tu voudrais faire?
Ça me tenterait sur le papier. Enfin, il y a tout qui est réuni pour me tenter de faire ça. Mais j'aime bien de plus en plus cloisonner ce que je fais. C'est qu'il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour tourner, il y a un temps pour être à la maison et rien faire et s'occuper de Martine.
Et les enfants.
De Martine. Elle s'appelle pas Martine, mais je l'appelle Martine. C'est génial. T'es allé, viens Martine, on y va. Mais papa, je m'appelle pas Martine. J'ai dit, on s'en fiche, on sait jamais ce qui peut se passer. T'as vu le bureau des légendes? Faut changer d'identité comme ça. Ok. Elle m'appelle Jean-Jacques. C'est génial.
T'as raison.
Jean-Jacques. Ouais, Martine. Viens, Jean-Jacques. Je suis en train d'en faire un pendant de moi. Hein.
C'est le principe de l'éducation.
Mais c'est fou, t'en fais ce que tu veux.
Ouais.
Je peux lui faire dire que, tu vois, dans la vie, il y a des trucs. Dès qu'elle voit une Twingo, faut courir dans le sens opposé. Tu vois, je peux lui apprendre ça. Là, je suis au moment où je fais ce que je veux.
Profites-en, ça va pas durer.
Ouais, je sais. Bah après, ah, mais t'es vraiment regarde. On a retrouvé tes DVD. Oh, la teon. Mais ça va, regarde pas ça. Naze. Plus, t'es le best-of. C'est soi-disant les meilleurs. Bon, bah ça va, dis pas ça, Martine. Déjà, je m'appelle pas Martine, ok. Je m'appelle Rachida. Comment ça, Rachida? Je me suis radicalisé.
Oh, Martine.
Non, mais on va loin, mais on sait jamais.
Il a décidé de sortir de mon cadre tellement il est. Reviens dans mon cadre.
Pardon.
Ah, bah bravo. En tout cas, tu feras un bisou à Martine.
Je ferai un bisou à Martine.
C'était cool de te
voir. Bah, c'était cool de te voir, mon frère.
À bientôt.
Toujours avec grand plaisir.
Salut.
Salut, mademoiselle.
Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.